On s'en parlait hier avec toutes ces histoires de pédophiles qui sont un vrai fléau pour notre société. Tout ça relié donc à l'exploitation sexuelle des enfants. C'est un sujet de plus en plus d'actualité et qui trouble profondément notre société. Puis on trouve ça inacceptable quand on entend des témoignages. Et aujourd'hui, je vous propose d'entendre le témoignage d'une jeune femme qui a réussi à se sortir des griffes de ses pimps et qui a réussi à refaire sa vie, qui aujourd'hui termine un bac en criminologie, qui a écrit plusieurs livres. On lui a déjà parlé au fil des ans. Et c'est Mélanie Carpentier. Bonjour Mélanie.
Bonjour Isabelle, ça va bien?
Oui, vous venez de sortir un autre livre de témoignage, cette fois-ci de survivante d'exploitation sexuelle, survivante de proxénète, de pimp. Et pourquoi je voulais qu'on vous parle aujourd'hui, Mélanie, au lendemain de la grande discussion qu'on a eue hier avec les auditeurs là, sur le fléau que représentent les pédophiles, au moment où il y en a un là, qui est en procès cette semaine, c'est que souvent on s'intéresse peu finalement aux victimes, que sont ces jeunes femmes, souvent des petites filles, coincés là-dedans à l'âge mineur. Et on les présente comme des filles finalement incapables de penser par elles-mêmes, souvent de milieux défavorisés. Et on oublie de se demander quel genre de femmes elles vont devenir. Et une fois qu'on a été abusées sexuellement, quel genre d'avenir on a devant nous? Dans votre nouveau livre, Inacceptable, c'est le titre, vous nous présentez cette femme, cette survivante, et on comprend là, que le fait d'avoir été agressée sexuellement dans son enfance ou d'être tombée sur un homme qui abuse sexuellement de nous, ça nous jette quasiment tout droit dans la prostitution.
Oui, exactement. Puis comme les services pour les victimes « at large » sont inadéquats et beaucoup incompétents. Je veux dire, ça maintient la personne dans des victimisations secondaires, conséquentes. C'est comme si ça s'arrêtait jamais. Donc, d'avoir accès à un milieu où ce qui t'accepte, pour qui tu es, pour que tu puisses te développer une identité, ça devient valorisant. Donc, pour moi, dans le livre que j'ai fait, qui a été subventionné par la ministre Danielle McCain au moment où elle était ministre Santé et Services sociaux, je devais démontrer qu'est-ce qui bloquait les filles à s'en sortir. Donc, pour moi, c'était important de prendre comme échantillon d'études des survivantes qui avaient fait l'université, qui avaient étudié en relation d'aide, qui travaillaient en relation d'aide, puis même avec leur connaissance des services, elles n'avaient pas accès et n'ont pas eu accès aux services qui leur convenaient. Mm-hmm. Donc, comment on peut espérer que quelqu'un qui n'a pas d'études, qui n'a pas de connaissances des services, qui ne connaît pas ses droits, d'être capable de se défendre dans ce milieu-là qui est carrément inadéquat pour eux, là? Mm.
Évidemment, bon, dans les femmes à qui vous vous êtes adressées et qui témoignent, pardon, il y a une Mélanie, il y a Angela, il y a Mia, il y a Vanessa.
Jessica.
Oui, voilà. Toutes ces femmes n'ont pas été forcément agressées sexuellement dans l'enfance, mais elles ont toutes été... certaines viennent de familles ou familles heureuses, mais elles ont toutes eu comme une personne qui a été l'élément déclencheur et une personne qui a abusé d'elles et de leur corps pour en tirer de l'argent, là, pour en soutirer de l'argent.
Oui, définitivement. Ça, c'est un élément commun dans chacune des histoires. Malheureusement, comme on peut voir par le témoignage des proxénètes à la fin du livre, eux autres aussi, c'est des enfants qui n'ont pas reçu d'aide. Donc, quand on parle de changement, c'est vraiment au niveau des services offerts à l'enfance qu'il faut travailler. La prévention telle qu'on la connaît actuellement, elle n'a pas d'effet bénéfique parce qu'au contraire, elle provoque la curiosité chez les individus. L'exploitation sexuelle est un sujet d'actualité. Mmh. C'est la mode. Donc, les gars rentrent dans mode. Les filles rentrent dans mode, mais au contraire, comme c'est où ce qu'il faudrait faire du changement, c'est pas de débloquer 14 millions au service de police pour qu'ils arrêtent plus de pimps, quand les pimps qui arrêtent sont noirs ou maghrébins, mais vraiment d'attaquer la racine du milieu. Il y a des salons de massage à tous les coins de rue, il y a des clubs de danseuses à tous les coins de rue, ils sont complices dans l'exploitation sexuelle de ces femmes-là ou de ces enfants-là, soit au niveau interprovincial au Canada ou même au niveau international, comme l'histoire de Tamia Nagy. Mm. Donc, ça serait vraiment intéressant, tu sais, d'aller plus loin. Puis en même temps, quand on offre des services d'aide à des personnes qui ont été victimes d'exploitation sexuelle, le but premier ne doit pas être la sortie de la prostitution. Là, le monde, il focus là-dessus. Elle doit sortir de la prostitution, elle retourne, donc elle veut pas changer.
Ouais.
C'est pas ça. Faut reconstruire l'individu, puis lui permettre de faire des choix éclairés. Puis qui sait, peut-être que elle, pour elle, c'est normal, la prostitution. Peut-être qu'elle va vouloir rester dedans. Mm. Puis ça veut pas dire que t'as fait un échec dans ton intervention.
Mm.
Mais au moins, peut-être qu'elle peut se respecter.
On parle beaucoup, effectivement, Mélanie, tout à fait. En ce moment, d'ailleurs, ce matin, dans l'actualité, on parle beaucoup de la DPJ à nouveau parce qu'il y a cette histoire de cette femme qui a tué sa petite fille, qui a poignardé sa petite fille. Il y avait eu un signalement à la DPJ. Il n'y a pas de question d'agression sexuelle ici, mais il y a question de la DPJ. Dans votre livre, on parle beaucoup de la DPJ, justement, et des manquements de la DPJ, de ces jeunes femmes qui vont elles-mêmes se signaler ou pour qu'on les sorte de leur milieu nocif ou qu'on les sorte des griffes de quelqu'un qui abuse sexuellement d'elles, ou encore des parents qui sont devant des jeunes filles rebelles, ne savent plus quoi faire, appellent la DPJ pour que la DPJ les place dans un centre. Et souvent, il y a en tout cas deux des cas que j'ai lus dans votre livre, où c'est au centre jeunesse que la jeune fille mineure a appris comment se prostituer. Quand on lit ça, on se dit « voyons donc ». C'est comme si certains centres jeunesse deviennent une école à prostituer, là.
Oui, exactement. Une école à prostituer et une école de pimp.
Ouais.
Je veux dire, les gars, ils sont pas pimp avant de rentrer au centre jeunesse. Les filles, ils sont pas victimes avant d'entrer au centre jeunesse. Si tu n'outilles pas correctement une jeune qui est déjà vulnérable, que tu enlèves sa liberté, que tu la contrôles, que tu lui donnes un horaire strict, OK, à 18 ans, elle se retrouve dans la rue, mais il n'y a plus personne qui dit à quelle heure se coucher, à l'heure de brosser ses dents, comment faire, elle est plus structurée, fait qu'elle se retrouve dans le vide. Qui va structurer ces filles-là? Mais c'est les proxénètes.
Ouais.
Les autres vont donner une structure qui est très ferme. Elle pourra pas manger quand qu'elle veut, elle pourra pas dormir quand qu'elle veut, elle va devoir travailler. Donc, tu sais, c'est vraiment comme, par le livre, ce que je voulais faire, c'est de faire un wake-up call à la société, puis dire, regarde, on s'en va pas dans la bonne direction actuellement.
Mmh. Il y a une jeune femme, Mélanie T, dans votre livre, qui raconte que, puis elle fait des recommandations, là. Entre autres, elle parle des centres jeunesse. Elle est arrivée dans un centre jeunesse à 13 ans, et je vais citer, elle dit, j'ai trouvé très inapproprié l'atelier où on m'a demandé de dessiner un pimp. Puis elle explique bien la scène dans votre livre. 13 ans, être avec d'autres filles de 16, 17 qui sont dans la prostitution. Puis là, donc, l'intervenante sociale demande à tout le monde, là, incluant la jeune de 13 ans qui n'était pas là parce qu'elle était prostituée déjà, au contraire, juste parce qu'elle venait d'une famille problématique. On demande à tout le monde, dessinez donc un pimp. Ça a l'air de quoi, un pimp? Elle connaissait même pas le mot. Donc, elle dit, comment ça se fait? Elle dit qu'une petite puce comme moi de 13 ans entre dans un centre avec des modèles de filles de 17 ans qui sont déjà dans la prostitution. Elle dit, tu veux en quelque sorte un peu être comme elle parce que c'est le seul modèle que t'as. Donc, indirectement, le recrutement se fait tout seul. Donc, elle suggère de diviser en groupes d'âge les adolescentes. Ça serait vraiment l'idéal. Elle dit, c'est pas normal de mettre une fille de 13 ans qui a jamais eu de problème de drogue ni de prostitution avec des filles de 17 ans et demi qui sont sur la veille de sortir puis qui ont un historique avec un pimp. Mais ça m'apparaît tellement une évidence. Je peux pas croire que ça se fait encore dans les centres jeunesse aujourd'hui, Mélanie.
Ben, je peux même pas croire qu'ils demandent à des filles de dessiner un pimp.
Exact, oui.
Ça ressemble à quoi, un pimp?
Mm.
Les pimps tels qu'on les conçoit, des rappers, vidéoclips, tout ça, là, ça représente 8% des pimps selon une recherche au doctorat à l'Université de Montréal. 92%, c'est la société québécoise, c'est les motards, c'est la mafia. Donc, on dessine ça comment, un pimp? On augmente le stéréotype envers des communautés et l'exploitation sexuelle n'est pas représentative de ces communautés-là.
Mm.
Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, pour moi, ça m'avait énormément troublé qu'elle me raconte l'atelier qu'elle avait fait en centre jeunesse.
Et ce qui m'a profondément troublé aussi dans votre livre, Mélanie Carpentier, c'est que au terme de toute la lecture du cas de ces sept femmes, toutes ont croisé au moins un gars qui a voulu abuser de leur corps. Souvent, c'était plus qu'un. Pas toujours un pipe, mais souvent un chum qui éventuellement leur vendait leur rêve d'un bel appart. On va s'acheter un condo, mais il faudrait que tu fasses ton bout. Souvent, c'est des filles aussi qui, venant de familles difficiles où il y a de la drogue, où il y a de l'alcool, qui rappellent donc la famille de cette fillette là, de 6 ans qui a été poignardée par sa mère, qui était visiblement, qui avait des gros problèmes de consommation, mais que la DPJ n'a pas jugé bon de retirer l'enfant. On finit par se dire, comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui veulent abuser sexuellement du corps des petites filles? C'est ce bout-là, moi, qui... J'ai de la misère à comprendre ça, puis il n'y a peut-être pas de réponse là, simple, mais il y a beaucoup... Dans votre livre, il y a une fille, là, on l'amène dans un motel, puis à la porte du motel, il y a 10 gars qui font la queue, justement,
ouais.
Avant de se baisser la braquette pour aller la violer.
Ben, en fait, il y en a deux. Il y a Alexia et Gabrielle qui ont vécu des choses similaires. Gabrielle, le cas est particulier parce que c'est sa mère qui l'exploitait sexuellement.
Ouais.
Donc, qui organisait des viols pour pouvoir se procurer de la drogue.
Mm.
On n'en parle pas beaucoup, mais c'est des choses qui arrivent quand même assez souvent. Donc, tu sais, je veux dire, comme oui, il y a l'aide, mais il faut aussi aider le milieu. Comme ces personnes-là, ils n'ont probablement jamais eu d'aide dans leur vie. Là.
Mm. Comment vous avez réussi, vous, à vous en sortir? Parce que, Mélanie Carpentier, vous avez vécu ça, vous aussi. Vous avez écrit, c'est votre troisième livre, vous avez écrit le best-seller « J'ai été une esclave sexuelle ». Ensuite, vous avez écrit « Survivante d'exploitation sexuelle ». Vous êtes en train de terminer un bac en criminologie. Vous avez beaucoup travaillé avec les pénitenciers aussi, avec les victimes, mais aussi les pimps. Comment vous êtes arrivée, vous, Mélanie, à sortir de cette industrie-là? Parce que selon les services de police, 90% de ces femmes-là, de ces jeunes femmes-là, qui ont souvent été amenées là alors qu'elles étaient mineures, retournent dans l'industrie du sexe parce qu'elles connaissent rien d'autre.
Bien, premièrement, je dirais que 90% des victimes retournent dans l'industrie du sexe parce qu'on ne leur laisse pas d'autre place ailleurs.
Mm.
Je veux dire, tous les systèmes qui font venir des victimes pour témoigner puis qui disent « on va te donner tes frais de déplacement », 50$, puis qu'eux autres qui ont des salaires d'au-dessus de 100 000$ par année, venez pas me faire croire que vous êtes soucieux de l'avenir de ces femmes-là.
Mm-hmm.
Moi, c'est quelque chose qui est clair à mes yeux. Pourquoi je m'en suis sortie? Ben, parce que j'ai une tête de cochon. J'ai toujours eu une tête dure. Donc, je suis pas quelqu'un qui est facilement influençable. Pour qu'on ait réussi à m'exploiter, il a fallu qu'on me drogue, puis ça a été fait en contexte de gang. Ça l'aurait pas été fait, j'aurais pas eu un pimp. Ça aurait pas marché.
Mm-hmm.
Donc, que moi, pour moi, quand tu me dis, t'es pas capable de faire quelque chose, ben, je le fais en double, puis je le fais en triple. On m'a dit que j'étais pas capable d'écrire un livre, j'en ai écrit 3. On m'a dit que des études universitaires, ça m'était pas accessible. Ben, j'ai fait un bac, j'ai fait un mineur, la moitié d'un certificat, puis je termine un deuxième bac. Donc, pour moi, j'ai cette soif-là de contredire les statistiques. J'aime pas les cours de statistiques, d'ailleurs.
Mm.
Mais comme pour moi, c'est comme j'ai cette force-là de montrer que l'image qu'on donne, on peut pas dire à quelqu'un, mais tu vas pas t'en sortir. T'as pas la force en toi, t'as pas l'intelligence. Puis pour de vrai, avec toutes les personnes qui ont été victimes, avec qui j'ai été mis en contact, c'est des femmes qui sont intelligentes, qui sont fonceuses, qui sont ambitieuses, juste de s'être relevées d'une situation qui était aussi difficile et complexe, je veux dire, c'est déjà la preuve qu'elles sont vraiment fortes.
Ouais.
Donc, pourquoi qu'elles ne feraient pas partie de la solution à place d'être continuellement exposées, de répéter encore et encore ce qu'elles ont vécu, ce qui les maintient dans une forme de victimisation?
Mmh.
Donc, tu sais, pourquoi on n'offrirait pas autre chose?
Ouais.
Fait, pour moi, j'espère que mon parcours va influencer les gens à changer l'aide pour les victimes d'exploitation sexuelle, qui vont encourager les filles à réaliser leurs rêves. C'est pas vrai qu'on vaut juste ça.
Oui. Merci, Mélanie. Vous restez avec nous, bien sûr. Va se joindre à notre conversation une avocate qui connaît bien le milieu et la DPJ. Elle est spécialisée en droit de la famille. Elle va nous donner son opinion par rapport aux questions d'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Il y a les questions des pédophiles dont on parlait hier. Il y a ce signalement à la DPJ, là, avant le meurtre de la petite fille de 6 ans qui a été poignardée par sa mère. Je tiens à dire d'ailleurs que l'article que vous pourrez lire, que vous pouvez lire dans la presse aujourd'hui, où on parle de cette histoire, le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal a tout fait pour ne pas qu'il soit publié. Ils ont demandé une injonction qui a fini par être rejetée. Et sincèrement, quand vous voyez que le CIUS, un des CIUS, c'est important les CIUS, là, c'est dans l'organigramme du ministère de la Santé et des Services sociaux. Quand un CIUS veut empêcher les journalistes de faire leur travail, je vais reprendre votre titre, vous me permettrez, Mélanie, je trouve ça inacceptable. C'est inacceptable, puis c'est inquiétant qu'on essaye de contrôler comme ça l'information. Puis il y a peut-être des gens qui ont pu penser, tiens, c'est bizarre, la mère de la fillette de 6 ans poignardée en juillet dernier, on n'en parle pas. Il n'y a pas de suivi journalistique là-dessus. Il y a des gens qui m'ont dit, vous en parlez toutefois quand c'est des hommes qui assassinent leurs enfants. Là, c'est une mère, on n'en parle pas. C'est pas parce que c'était une mère. Là, on comprend aujourd'hui que le CIUS a tout fait pour que l'information ne soit pas connue. C'est-à-dire que, parce que ça implique la DPJ, il y a eu un signalement qui a été fait par la grand-mère à la DPJ avant le meurtre, qui a dit « Je m'inquiète pour ma petite-fille de 6 ans ». La DPJ n'a pas jugé bon d'intervenir. Alors imaginez toutes ces jeunes femmes, là, jeunes filles mineures qui ont des problèmes, qui sont exploitées sexuellement, qui pensent que la DPJ ou les centres jeunesse vont peut-être être la solution. Loin d'être le cas. 514-790-9850. Si vous avez, vous aussi, un témoignage à faire, ne vous gênez pas. C'est vraiment, on est vraiment là pour ça, pour vous entendre. Si vous êtes une famille de jeunes comme ça qui ont des problèmes et qui aimeraient beaucoup s'en sortir, on est là pour vous écouter. De l'extérieur de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. Et dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850. À tout de suite. Valérie Azouline est avocate spécialisée en droit de la famille. Bonjour, Maître Azouline.
Bonjour.
On vient de parler avec Mélanie Carpentier, qui est une survivante de l'exploitation sexuelle, qui vient de publier un livre qui s'intitule « Inacceptable », où on retrace le parcours de vie de cette survivante de cette industrie du sexe, dans laquelle elles ont été jetées, finalement, hein, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'elles ont croisé sur leur route, à un moment donné, à l'époque où elles étaient souvent mineures, un ou plusieurs hommes qui ont exploité leur corps. Et souvent, la seule chose qu'elles connaissent, ben, c'est la rue. Beaucoup sont passés par la DPJ. Beaucoup ont été l'objet de signalements. C'est sûr que beaucoup ont fugué. Beaucoup ont essayé de s'en sortir. Mais évidemment, quand on connaît un seul milieu, on a tendance à y retourner. C'est pas évident, ça prend beaucoup de courage pour se sortir de cette industrie tentaculaire qui a des dents très fermes. Une fois qu'on est sous son emprise, c'est pas évident. Il y a la peur, la peur de mourir aussi, il y a des menaces. En fait, c'est assez complexe. Vous qui connaissez bien ces cas-là et qui, depuis longtemps, nous prévient des dérives de la DPJ, quelle est votre réaction par rapport à ce que vient de nous témoigner Mélanie?
C'est sûr que lorsqu'on entend des témoignages comme celui-là, c'est très frustrant parce qu'on se dit que ces femmes-là, finalement, on est encore dans une société qui banalise la prostitution. Il faut que ça devienne odieux de profiter de jeunes adolescentes. Il faut que ça devienne comme aussi, parce que c'est aussi grave, par exemple, que de conduire en état d'ébriété. Il faut que ça devienne assez grave, que ça n'existe plus dans notre société et que ça ne soit plus permis que des adultes abusent de ces jeunes adolescentes. A priori, au niveau de notre société, il y a un problème majeur et ça, il faut que ça soit réglé. Au niveau du centre jeunesse, ouais. Lorsque ces filles-là vont dans le centre jeunesse et qu'on se dit c'est l'État qui est censé les protéger et que l'État ne les protège pas, bien moi, j'ai un enjeu parce que qui va protéger ces jeunes filles-là? Comment se fait-il qu'elles sont recrutées, et il y en a plusieurs qui sont recrutées, à partir de ces centres jeunesse? Mm-hmm. Pourquoi elles ne sont pas protégées plus que ça? Pourquoi elles n'ont pas été sensibilisées peut-être? Il y a de la formation qui manque au niveau de la prostitution juvénile.
Mais et là, aujourd'hui, on pointe du doigt la DPJ, entre autres le CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal, qui a essayé d'obtenir une injonction provisoire pour essayer d'interdire la publication d'un article où, qui est finalement sorti ce matin, où on apprend que la mère accusée d'avoir poignardé sa fille de 6 ans avait des graves problèmes de toxicomanie, mais que les proches étaient inquiets, que les proches ont dénoncé à la DPJ qu'ils ont fait un signalement et que personne n'a semblé trouver important d'aller voir sur place. Il y avait d'ailleurs la fille aînée, cette mère avait donc deux enfants, une fille plus vieille d'un autre père. Donc cette fille-là avait décidé de son propre chef de quitter le domicile de sa mère. Mais la petite fille de 6 ans, elle, a été gardée avec sa mère. La DPJ n'a pas jugé bon de la sortir de ce milieu toxique. Comment vous expliquez ça, vous, Maître Azoulien?
Bien, écoutez, des dossiers comme celui-là, j'en vois tous les jours. Des dossiers où on n'entend pas le parent qui ou le grand-parent qui tente de faire des signaux d'alarme pour sortir un enfant d'un milieu où il y a vraiment de la compromission. J'en vois à tous les jours. Je pense encore qu'il s'agit d'un manque de formation d'intervenants à la base, à l'évaluation, mais ça va plus haut. Il s'agit aussi d'un manque d'écoute. Parce qu'il faut entendre ces appréhensions-là, il faut écouter ces signaux d'alarme, et on ne les entend simplement pas.
Mais là, c'est plus qu'un manque de formation, là, Maître Azoulay. À un moment donné, ça devient...
De la négligence.
Complètement?
Complètement. Complètement, et on en voit. On en voit des enfants qui sont, par exemple, où la DPJ recommande de placer un enfant avec un père alcoolique qui ne reconnaît pas un problème d'alcool.
Mais j'ai un cas hier, Maître Azoulay, vous avez raison de le mentionner, il y a l'alcool, mais il y a aussi, hier, on parlait des pédophiles, des pères incestueux. J'ai des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'il y avait eu un inceste dans la famille. Le père est coupable d'inceste, mais la DPJ estime que la petite fille doit conserver un lien paternel, un lien avec son père, même si son père est l'agresseur. Ça dépasse la logique. Je veux dire, c'est le bout de tout, là, ça. Là.
C'est la logique. Moi, je me suis résignée. Des fois, il n'y en a pas. Et il y a des dossiers où il n'y en a pas et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une caméra cachée? C'est une blague. C'est pas possible que la DPJ recommande qu'un enfant va aller voir un père qui a un passé d'abuseur sexuel ou, par exemple, un passé qui a passé des années en prison et après, c'est comme si rien ne s'est passé. C'est comme si cet enfant avait jamais été témoin de quoi que ce soit. C'est terrible. Mmh. C'est terrible. Et c'est une question aussi de culture. C'est quand la DPJ prend une direction dans un dossier, bien, ça ne change pas. Ils vont tout droit. Même si on va tout droit vers un mur, on y va tout droit. Mmh. Et c'est ça que je déplore, parce que des fois, il y a plusieurs indices qui nous montrent que, bon, il faut déplacer cet enfant-là, ou il faut protéger cette jeune-là qui a fugué. Il faut lui offrir à cette fugueuse-là des services psychologiques. Si on revient, par exemple, à ces jeunes en centre jeunesse, il y en a plusieurs qui ne reçoivent aucun service. Ils rentrent en centre jeunesse, s'ils avaient des services de psychologue, on les arrête. Et ça aussi, le manque de service à ces jeunes-là, il y a un besoin énorme.
Ouais. Mmh. Parce que si j'en viens à cette histoire de cette petite fille de 6 ans qui a été poignardée par sa mère, puis c'est là où vous dites, bon, la formation est déficiente à la DPJ. La DPJ est allée voir après le signalement de la grand-mère, mais a dit, finalement, tout va bien dans la famille, la mère est correcte. Et même la sœur de l'accusé dit dans le journal La Presse aujourd'hui, dans le fond, ils sont tombés dans le panneau parce qu'elle était capable de... On a parlé beaucoup de la manipulation des pédophiles, mais je veux dire, il y a des parents comme ça, toxiques, qui sont effectivement capables de manipuler. Et visiblement, même la sœur de cette femme-là... semble dire que sa sœur était capable de renvoyer l'image de la mère parfaite alors qu'elle consommait de l'alcool puis de la drogue la nuit. Donc, la DPJ semble pas avoir gratté bien plus loin. On est allé voir, on a vu que finalement, ça avait l'air correct, mais il faut dépasser ce stade-là.
Parce que, exactement, il faut le dépasser et plusieurs dossiers sont basés sur des impressions d'intervenants, sur des impressions que, la mère, elle a l'air très bien, là. mais allez-y plus loin, allez-y dans le milieu scolaire, allez-y vérifier auprès de la famille, entendez les propos de l'entourage, des voisins, et c'est ça qui manque. C'est quand on a une impression d'un dossier, mais c'est fini, on a l'impression et on bouge pas. Alors, il faut plus que les dossiers restent statiques. Il faut pouvoir avancer, il faut pouvoir s'adapter et il faut pouvoir entendre. Et c'est ce manque d'écoute que je déplore à la DPJ. Et honnêtement, aujourd'hui, on a cet enfant-là qui n'a pas été protégé. Qui est imputable pour l'inaction de la DPJ? Personne. Je pense que le jour où la DPJ sera imputable, où les dirigeants de la DPJ seront imputables pour leurs actions et leurs inactions, il y aura moins d'erreurs comme ça. Il y aura moins de failles. Lorsque, par exemple, la DPJ recommande de remettre un enfant avec un parent qui a un passé d'abuseur sexuel, eh bien, si demain cet enfant est abusé, il faut que quelqu'un soit responsable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que personne n'est responsable. Alors, si cet enfant-là est abusé sexuellement par son père, qui va être responsable? Personne. Et en plus, ils vont se battre pour pas avoir un article de journal de publier. Il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est cette culture où il va falloir que ça vienne d'en haut. Parce que c'est toute la DPJ qui doit changer sa mentalité. On écoutez les enfants. Il y a des enfants qui vont verbaliser que maman est frappée, n'en crois pas. On va mettre ça sur le taux de l'aliénation parentale. Il y a des enfants qui vont verbaliser qu'ils ont dû souffler dans l'antidémarreur éthylométrique de l'auto pour un parent alcoolique. Et on les croit pas. On va mettre ça sur le couvert du conflit parental. C'est pas un conflit parental lorsqu'un enfant verbalise qu'il a vécu des choses graves. C'est pas un conflit parental. Et c'est ça. C'est ça que je déplore à la DPJ. Il faut vraiment que ça change. Et vous savez, c'est des experts, c'est censé être des experts de l'enfance. Alors,
en tout cas, des protecteurs, ça le dit dans le titre.
Oui, des protecteurs formés. Ouais. Alors, il faut qu'ils soient plus à l'écoute et qu'ils aient plus d'humilité pour voir un peu les différentes facettes dans un dossier.
Merci beaucoup, Maître Azouline, d'avoir pris le temps de nous parler. Valérie Azouline est avocate spécialisée en droit de la famille. Après la pause, on va avoir le témoignage d'un jeune, Alexandre, qui est passé par les centres jeunesse. Il ne savait pas, lui, avant, comment on vendait de la drogue. Ça n'a pas été long qu'il l'a appris. À tout de suite, tout le monde. Bonjour, Alexandre. Vous écoutez nos discussions et ça vous rappelle ces années, 4 ans, où vous avez été à la DPJ dans des centres jeunesse.
Ouais, ben dans le fond, en premier, bravo pour votre émission, c'est la première fois que j'appelle. Moi j'avais une couple de points à ramener. En premier, c'était juste une parenthèse, l'affaire de drogue, parce que vous avez parlé d'une activité où elle devait décrire un pimp. Mm-hmm. Dans le fond, moi, pour vous donner une idée, quand je suis rentré en centre jeunesse, à l'âge de 10 ou 11 ans, j'avais jamais vu de drogue de ma vie, puis 3 jours plus tard, je vendais de l'amphétamine. Fait que, pour vous donner une idée de, lorsqu'on rentre là-dedans, ils nous mettent avec des groupes. Eux, ils considèrent ça un groupe d'âge approprié. Comme moi, quand je suis rentré dans mon premier foyer de groupe, j'étais 6-12 ans. Puis après ça, quand j'ai été arrêté plus tard, une fois que je suis sorti, dans le fond, 3 mois, je pense, de mon foyer de groupe, après un an et demi là-bas, je me suis ramassé à Cité des Prairies en garde fermée. Fait que, dans le fond, une fois qu'on rentre dans le centre jeunesse, qu'on soit dans les jeunes ou dans les adultes, les branches d'âge, tu vas connaître du monde de ce milieu-là, que ce soit le proxénétisme, la drogue, la violence, ces choses-là. Fait que ça, c'est mon premier petit point. Ensuite, pour ce qui est de comment la DPJ traite les cas de proxénétisme, ça a peut-être changé depuis que je suis sorti de cité. Mais moi, j'étais dans une unité qui avait pas de grillage à la fin. Fait que c'est ce qu'on appelle une garde ouverte. Puis dans le fond, quand tu es en garde ouverte, tu peux juste prendre la porte puis t'en aller. Puis dans le fond, ils appellent ça une évasion. Puis après ça, ils appellent la police, ils remplissent un rapport. Mais dans le fond, moi, il y avait un jeune qui était connu, il avait été violé à tour de rôle par toute sa famille quand il était bébé. Là, quand je parle bébé, là, on parle de 1 ou 2 ans. Je veux pas dire son nom, fait qu'on va l'appeler Bob. Mais Bob, on était même pas censé savoir son dossier. Ils ont pas le droit de nous dire ça, mais tu sais, les intervenants, ils riaient puis nous montraient son dossier, tu sais. Fait que ça, c'est pour vous donner une idée. À chaque fois qu'il partait en fugue, il était super à risque parce que lui, il allait tout de suite sur Sainte-Catherine dans le quartier gay faire ce qu'il sait faire depuis qu'il est tout petit parce qu'il se faisait violer toute sa vie par sa famille. Fait que, tu sais, quand je te dis toute sa vie, c'est parce qu'il a le dos croche à cause de ça. Oh. Fait que, lui, dans le fond, quand il partait en fugue, ou il partait en évasion, ben, tu sais, il y a personne qui essayait même de parler ou de le regarder ou quoi que ce soit. Il faisait juste rire, puis il me disait, ah, ben, Alex, va sur le tableau, efface présent, puis écris évasion sur le tableau. Fait que, tu sais, c'est des choses de même que la DPJ, honnêtement, les intervenants qui sont là, si tu veux partir, ils vont pas essayer quoi que ce soit pour t'empêcher de partir. Ils peuvent, par la loi, ils peuvent pas. Puis, mon dernier point aussi, c'était concernant le recrutement dans les centres. Pourquoi c'est aussi facile de recruter dans les centres? Ben, pour les filles de, ben, j'assume que la fille, elle doit être à NDL, elle, qui est le centre à Laval. Dans le fond, ce qui est bien ouais. simple, ce que le monde y font, parce que je l'ai entendu de première vive voix, ben, il y en a qui ont déjà une fille ou des filles, ou je sais pas comment tu veux appeler ça, les proxénètes. Puis, eux, ils sont déjà dans l'unité. Fait que, admettons que moi, j'ai fille A qui fait un an pour je sais pas trop quoi, l'engueuler ses parents étaient écœurés d'elle. Ben, tu sais, moi, je peux dire à fille A, ah, ben, attends, je vais te payer ça, ou je vais te payer plus de dope, ou je vais te payer plus de ci. Essaye de, tu sais, donne-lui mon numéro, essaye de, tu sais, je peux y parler, quoi que ce soit. Puis c'est ouais. facile après ça de manipuler une petite fille de 13 ans. Là.
Tout à fait.
Fait que ça, c'est pour vous donner un compte-rendu un peu sur à quel point que, je sais pas si ça a changé, mais moi, dans mon temps, à DPJ, ils s'en foutaient pas mal, là.
Ah ouais, puis ça fait combien de temps de ça, Alexandre?
Moi, tu vois, moi, je suis sorti de cité, j'ai fait ma dernière année, c'était en 2016, je pense.
Ah, ça fait pas si longtemps que ça.
Ça fait 2 ans, 4 ans, là.
4 ans, ah ouais.
C'est ça. Tu sais, maintenant, moi, je suis sorti de là, moi, j'ai mon appart, j'ai 2 choses, je travaille dans la construction, puis tu sais, tout est beau pour moi, mais tu sais, j'en connais des quand j'étais en quartier, c'est collé avec NDL, le centre de filles, fait que tu sais, il y en a des filles de 13-14 ans qui suçaient pour des cigarettes, là. Tu sais, c'est vraiment triste à voir, honnêtement, là. Mais, gars, quand tu rentres là-dedans, c'est juste du monde de même que tu vas rencontrer, tu sais, puis les intervenants, ils savent, puis la seule chose qu'ils pourraient faire, c'est faire des unités, admettons, prostituées ou seulement voie de fait ou etc. Mais ils peuvent pas faire ça parce qu'à un moment donné, il y aurait des unités pour chaque personne.
Mm.
Fait que t'es pris avec d'autres mondes. C'est comme si tu rentres en prison. Tu peux rentrer en prison à cause de... T'as oublié de payer une amende ou t'as pas d'argent ou quoi que ce soit. Mais tu te ramasses avec du monde qui ont fait des crimes pas mal plus graves que toi.
Ouais, tout à fait.
Ça fera en vivre avec.
Merci beaucoup de ce témoignage, Alexandre. Écoutez, c'est incroyable ce que vous nous racontez. Merci beaucoup. Puis bravo pour ce courage que vous avez eu, là, puis cette force de vous en sortir. Effectivement, une des jeunes femmes, je me tourne vers Mélanie Carpentier parce que Alexia, à qui vous avez parlé, Mélanie, qui a été victime d'un gangbang, a voulu porter plainte contre Paul et Phil, ses agresseurs. La police de Montréal lui a dit qu'elle ne pouvait pas poursuivre parce que Laval était déjà dans le dossier, mais finalement, elle n'a jamais eu de nouvelles de la part de la police de Laval. Et le seul contact, dit-elle dans le livre, avec la police qu'elle a eu, c'est une policière spécialisée apparemment auprès des victimes d'exploitation sexuelle qui l'a appelée au centre jeunesse et qui lui a dit quelque chose comme « Hey, c'est pas le fun de se faire fourrer pour du McDo? »
Oui, c'est traumatisant. Hein?
Mais ça démontre aussi l'attitude hyper jugeante qu'ont les adultes envers ces mineurs-là?
Oui, définitivement. Puis sur les sujets qui ont été apportés, si vous me permettez, Isabelle, j'aimerais apporter un point qui m'a traumatisée parce que moi, je m'informe beaucoup de ce qui est fait en centre jeunesse et tout, puis les interventions qui sont faites auprès de ces filles-là. Puis il y a un des chercheurs du centre jeunesse, celui qui implante les programmes en centre jeunesse,
mm-hmm.
a dit que dans les cas des jeunes figueuses du centre jeunesse, fallait pas mettre en place un plan d'intervention, mais un plan correctionnel.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il faut mm-hmm. comprendre qu'une jeune fille de 14 ans, quand elle n'arrête pas d'aller rejoindre son chum de 30 ans dehors, c'est parce qu'elle veut pas changer.
Mais même le vocabulaire d'Alexandre, c'est un vocabulaire de pénitencier. Ces jeunes-là oui. sont en garde, ils sont gardés. Quand ils s'en vont, qu'ils fuguent, on dit qu'ils se sont évadés. Ça m'a frappé comment Alexandre nous racontait ça. Oui. Vous me permettrez, il y a André qui nous appelle très, très rapidement, André, parce que je devais aller à la pause, mais je voulais vous entendre. Vous avez été intervenant à la DPJ, vous ne l'êtes plus aujourd'hui, mais vous l'avez été pendant 35 ans. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire là-dessus, André?
Ben, dans un premier temps, je voudrais juste spécifier, j'ai été, avant d'être travailleur social, parce que j'ai les deux formations, j'ai travaillé à Berthelet, qui s'est appelé par la suite Cité des Prairies.
Mm-hmm.
J'ai un petit peu de misère avec votre intervenant en premier, là, avant, là, Alexandre
ouais.
que les éducateurs comptaient le gros sourire aux lèvres, là. Ça, moi, j'ai bien de la misère avec ça.
Mm.
Je veux bien croire, là, ça se peut qu'il y ait un éducateur qui soit pas à la bonne place, mais sauf qu'en général, je pense que les gens essaient de faire ce le plus possible pour ces jeunes-là.
Mm-hmm.
Pour la sécurité, ben, c'est très clair qu'actuellement, avec la nouvelle norme du gouvernement, à savoir qu'on barre plus ou on peut plus en barrer ou on peut plus mettre sécuritaire les unités, ben, c'est sûr que le jeune qui veut quitter ont la possibilité de sortir assez rapidement puis s'en aller. Mais là, il faut aussi tenir compte que quand on parle de centre d'accueil, quand on parle de Notre-Dame-de-Laval, dans le temps, il y avait cinq domiciles qui étaient un petit peu moins rigides. C'est des centres de dernière ligne. Donc, Notre-Dame-de-Laval pour les adolescentes, mm-hmm. et c'est des prairies pour les garçons. Je suis d'accord que quand ils mettent les jeunes dans des unités, ils essayent de les mettre dans des unités en fonction des places qu'ils ont, parce qu'il y a une question de place aussi. Faut avoir des places pour les garder, ces jeunes-là, ils les envoient à quartier, puis après ça, en réadaptation à Cité des Prairies. Faut se souvenir aussi qu'en temps, il y avait eu Boscoville, puis il y a eu le Mont-Saint-Antoine, où là, c'était beaucoup plus ouvert, puis il y avait un système de réadaptation qui était en conséquence. Mm-hmm. Ce qui me fatigue, c'est que les policiers ont fait leur ouvrage, là. Mais quand on travaille, moi, j'ai passé ma vie à travailler avec des gangs de rue, les motards et puis les jeunes en prostitution, c'était ça ma majeure tout le temps que j'ai travaillé au centre jeunesse depuis 77. Les policiers font leur job, tout le monde essaie de faire leur job, mais quand vous arrêtez un PIM, le PIM est arrêté, il passe en cours. Quand il passe en cours, il y a une sentence extrêmement bonbon.
Ouais.
Une petite détention d'une couple de mois, puis après ça, il ressort. Pendant ce temps-là, ben, il y a son partner à côté, parce qu'en général, ils sont en gang, qui continue le commerce, autant que ça soit de dope ou de prostitution. Les adolescentes tombent en amour avec ces gars-là parce qu'ils sont très enjôleurs. Ils les gratifient en leur donnant plein de cadeaux au début, puis après ça, à un moment donné, mais ils leur disent, ben là, faut que tu payes maintenant.
Ouais.
Faut que tu partages. Mais ces adolescentes-là revoient toujours ces PIM-là qui ressortent aussi vite qu'ils sont rentrés. Là,
c'est un cercle infernal, André, ce que vous me décrivez. Tout à fait, vous avez raison. Merci beaucoup. C'est très précieux également, votre témoignage à vous comme intervenant, ex-intervenant. On doit aller à la pause. On vient de m'apporter donc une réaction du ministre, du cabinet du ministre à la Santé et aux services sociaux. Je vais vous lire ça après la pause. C'est concernant cette fameuse injonction. Donc, on veut faire une clarification. C'est intéressant. Je vous dis ça après la pause. Puis, bien sûr, nos lignes sont pleines. On va vous donner la parole encore, bien sûr, sur ce sujet. À tout de suite. Je vous encourage à aller lire l'article de la presse de ce matin concernant le cas de cette femme qui a assassiné sa fille de 6 ans. C'est arrivé cet été. Il y a eu un signalement par la grand-mère à la DPJ. La DPJ est allée voir sur place, n'a pas trouvé qu'il y avait matière à une intervention directe et à sortir cet enfant de sa mère qui a fini par l'assassiner quelques semaines plus tard. Là, évidemment, la famille estime qu'il y a eu un gros manque dans la DPJ, dans l'action de la DPJ et entrevoit la possibilité même de poursuivre la DPJ. Je vous disais tout à l'heure, parce que c'est ce qui est écrit à la fin de l'article, la journaliste dit la publication de cet article était prévue au mois d'août. Le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal a obtenu une injonction provisoire nous interdisant de le publier sans laisser la possibilité à la presse de se présenter pour faire valoir ses droits. En fin de journée, mercredi, la Cour supérieure a fini par rejeter la demande d'injonction interlocutoire sur laquelle nous avions pu être entendus vendredi dernier, ce qui a permis la publication de cet article. Vous irez juger par vous-même. Toujours est-il que le cabinet du ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, a voulu réagir et on me dit ceci. On m'écrit « petite rectification sur l'article de la presse de ce matin. L'injonction a été demandée par la DPJ pour protéger la sœur de la fillette assassinée et non pour protéger la DPJ. Le but visé était de protéger la jeune fille afin qu'elle ne se retrouve pas dans les journaux. De plus, par deux fois, la journaliste a essayé d'entrer en contact avec elle pour faire une entrevue, ce qui n'aurait pas dû avoir lieu. » M. Lionel Carman ne peut accorder d'entrevue puisqu'il y a une enquête criminelle. Alors voilà, vous avez toute l'histoire. Alors jugez par vous-même. Est-ce que c'est normal que le CIUS ait essayé de faire interdire la parution d'un article où il est question de la DPJ? Ben, écoutez, moi, je veux bien là, que c'est bien d'essayer de protéger la... Je pense que les journalistes sont très au courant aussi de la protection des sources et des noms des mineurs. Donc, je pense que dans ce cas-ci, la journaliste aurait été tout à fait capable de protéger cette jeune fille aussi. On a avec nous, c'est une auditrice qui nous appelle, qui s'appelle Marlène, qui a aujourd'hui 47 ans, mais qui a réussi à se sortir de cet enfer qu'on vous décrit depuis tout à l'heure. Bonjour, Marlène.
Bonjour.
On vous écoute.
Bien, c'est ça. Depuis tout à l'heure, j'écoute ça. J'écoute les gens qui ont passé par les centres d'accueil, les familles, tout ça. Et puis moi, ce que j'aurais à dire là-dedans, c'est que eux, pour ma part, ils m'ont sauvé la vie. En fait, c'est tout le contraire de ce que tous les gens disent. Mm-hmm. Là. Mais j'ai passé par la DPJ. Et puis, moi, j'avais une mère narcissique, manipulatrice, et puis tout ça. Et puis, elle a réussi à leur faire croire tout ce qu'ils voulaient. Puis, comme on dit, ben c'est ça, tu sais. J'ai passé par toutes les étapes, là, tu sais, la prostitution, la délinquance, et puis tout ça. Et puis jusqu'au jour où ce que les gens du centre d'accueil se sont rendus compte que finalement, j'étais une personne qui en valait la peine, et puis qui m'ont remis les valeurs aux bonnes places, puis tout ça. Mais ce que je vois là-dedans, tu sais, quand on parle de des jeunes femmes qui se font prendre par les gangs de rue, des choses comme ça. La première chose là, qu'on remarque, là, le dénominateur commun, là, c'est le manque d'amour, le besoin d'une appartenance, le manque d'amour, tout simplement. Là.
Ouais.
C'est ça qui a été défaillant. Quand on se retrouve dans une gang, là, c'est quoi qu'on a? Hein? On a l'impression d'être reconnu, on a l'impression d'être quelqu'un, on a l'impression d'être aimé. C'est ça qu'on n'a pas. Là, t'sais. Puis ça, la DPJ, il n'y a pas personne qui va être capable de nous le donner, à part... Fait que,
mais vous avez raison, Marlène. Le manque d'amour, le manque d'attention, le manque de famille, de normalité, de routine, on le voit bien. Puis dans les témoignages que Mélanie Carpentier a recueillis. Merci beaucoup, Marlène, de votre témoignage. On va devoir conclure là-dessus avec Mélanie. Mais c'est juste ce qu'elle nous vient de nous dire, Marlène. Là. C'est le manque d'amour. Mais je retiens quand même, parce qu'on a tendance à trouver une raison puis on l'applique à tout le monde. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça, Mélanie. Je retiens quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent aussi d'une famille où il y a eu de l'amour, mais elles ont été... Et puis, de plus en plus, c'est le problème aujourd'hui, drogués contre leur gré, avec du GHB dans un bar, victimes d'un gang rape, là, d'un viol collectif, puis après ça, ou victimes d'un pimp, d'un jeune chum qui les fait travailler. Puis après, une fois que t'es dans l'engrenage, c'est là où t'as de la misère à t'en sortir.
En effet, puis oh mon Dieu, Isabelle, je pourrais vous en parler pendant des heures, comme j'ai plein de choses qui pop-up dans ma tête. En ce moment, mais j'aurais aimé ça apporter un dernier point, si possible.
Oui, 30 secondes. C'est
la ministre McCain qui a financé mon livre dans le but de comprendre pourquoi les filles retournaient dans la prostitution.
Oui.
Quand j'étais dans la correction du livre, dans les dernières pages, il y a un article de journal qui mentionnait un projet de loi fédérale qui visait offrir l'aide à mourir aux victimes d'actes criminels parce que les services étaient déficients.
Mélanie, il va falloir qu'on conclue là-dessus, malheureusement. Mais je rappelle le titre de votre livre, Inacceptable, publié chez Béliveau Éditeur. Merci beaucoup de votre témoignage. À demain, tout le monde.